Infatti se n'est pas très académique, mais je voudrais quand même partir de deux expériences très concrètes et personnelles que je viens de vivre ces dernières semaines. Une a à faire avec la finance et l'autre avec une grève dans laquelle je me suis trouvé, la grève des usines des chemins de fer au Tessin, dans le canton où je vis, une grève qui a abouti à une victoire et qui pose un certain nombre de questions autour desquelles depuis quelque temps nous réfléchissons et en essayant de produire, de construire des catégories, comme l'idée de commun, l'idée de institution du commun. Pour ce qui est de la première expérience que j'ai vécue, je le dis tout de suite, je me suis trouvé un peu comme Forrest Gump dans un bordel financier que j'ai créé sans exactement me rendre compte. J'étais invité à une chaîne de télévision privée en Italie, discuter un livre de Giulio Tremonti, un livre très très ambigu, très dangereux. Tremonti, qui sera ministre, je pense, de l'économie dans ce prochain gouvernement de Berlusconi, vient de publier un livre qui est en partie sur la peur induite, produite par la globalisation, et qui est pour la deuxième partie un livre sur l'espoir, un espoir construit sur des valeurs très fortes, très de droite, très européiste, mais dans le sens justement de l'Europe fortress, et qui pose sûrement des questions de évaluation du point de vue politique, dans le sens que les thèmes de la première partie, surtout la critique de droite post-néolibériste, on pourrait dire, à la marchétisation, on dit en français, marchétisation. Hein?
Marchandisation.
Non, c'est vraiment lié au marché. Hein?
Marchandisation.
Sont des critiques que je pense que chacun de nous pourrait très bien partager. Et donc, la chose intéressante, c'est justement que il y a une frousse, je pense, parmi les théoriciens de la droite qui, ces dernières décennies, ont poussé à la marchandisation jusqu'à la limite, éprouvent maintenant et qui les porte à se poser des questions que la pensée critique no global, new global, ainsi de suite, s'est posé depuis quelque temps. Je le dis parce que ça, c'était le contexte, et à un certain moment, il m'est arrivé de dire, en tant que Suisse est présent à ce débat, que j'avais vécu la crise, la faillite de Swissair, j'avais vécu aussi la digitalisation, la transformation des télécommunications, des transports et de la poste en régie, disons, semi-privée. Et puis, à un certain moment, j'ai dit, et maintenant, hélas, il me semble d'être en train d'assister à la faillite de l'UBS. L'UBS, c'est la grande banque. Ça, c'était mercredi soir, il y a deux semaines. Et puis le jour après, je devais partir. Et le directeur de mon université me téléphone et me dit, écoute, tu es vraiment dans la merde parce qu'il y a la panique à l'UBS. Une panique qui sera poursuivie par l'UBS, disons, l'UBS parce que apparemment, il y a beaucoup d'Italiens qui veulent enlever leurs capitaux. Hein. Je vous dis que c'est sympa de le dire a posteriori, mais lorsque vous êtes dans cette situation, je me suis senti le sang gelé. Hein. Je ne savais pas d'avoir. Premièrement, je ne suis pas connu au point de pouvoir provoquer une panique. C'était vraiment un contexte fortement médiatisé. Trémont, qui est très connu, donc lorsqu'il y a un personnage comme lui, il y a des millions de personnes qui cherchent de lire de tout ce qu'il dit, même lorsqu'il ne parle pas. J'étais le Suisse en Italie qui était invité dans un programme qui est assez connu, disons. Et donc, je dis ça parce que pour souligner, ce n'est pas pour parler de moi, évidemment, parce que j'aurais préféré ne pas vivre cette expérience, parce que je suis encore dedans, cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils m'ont en tout cas convoqué avec avocat et tout le monde. J'ai dérangé très fortement l'image de l'UBS et donc on m'accusait de agiotaggio, c'est-à-dire agiotaggio c'est lorsqu'on met en circulation des fausses nouvelles pour favoriser la concurrence, ce qui est vraiment un peu faux, parce que moi j'étais là comme.
Qu'est-ce que tu avais dit, toi?
Hein?
Qu'est-ce que tu avais dit?
Littéralement, j'avais dit que je suis, hélas, je le sais parce que j'ai la phrase dans la poche, que j'avais oublié exactement ce que j'avais dit. Je vais assister probablement à la faillite. Ce qui était apparemment, mais je le suis après, mais j'avais quelques informations, évidemment, je ne sais pas que j'ai inventé ça. C'était le cas, parce que c'était avant la recapitalisation de l'UBS qui, en fait, justement, 5 jours après, de 15 milliards de francs, grâce à l'injection de la Federal Reserve, qui, à travers la JP Morgan, a sauvé, disons, temporairement, la Bear Stearns. Donc, grâce cette mesure de sauvetage, l'UBS qui était en faillite technique dans ces jours-là, donc de ce point de vue, je suis couvert, mais naturellement, c'était une inside information. Mais grâce à cette intervention de la Federal Reserve, l'UBS a pu se recapitaliser justement pour faire face, pour, disons, dépasser ou surmonter cette faillite technique dans laquelle je me trouvais pendant ces jours-là. Mais pourquoi je dis, je commence par là? Parce que, premièrement, cela vous donne une idée de la fragilité du système financier. Au moins, sûrement dans cette période. Une fragilité sûrement due au fait que cette crise a toute l'apparence d'être une crise énorme, de très basse proportion. Apparemment, seulement cette banque-là, l'UBS, selon le Wall Street Journal, a 580 milliards de dollars de lignes de crédit aux hedge funds, aux private equity agencies, qui sont à risque. Hein, qui sont à risque. Donc, non pas ils ont perdu sur les subprimes, sur donc tous ces investissements qu'on sait, dont cette UBS est une des banques européennes les plus exposées, mais il y a toute une série d'autres lignes de crédit qui risquent d'être annulées dans les prochains mois. Hein. Mais je disais, cette question nous renvoie justement à la fragilité d'un système banquier, bancaire, en tout cas induit par une crise financière qui a toutes les chances de ou les possibilités de durer sûrement jusqu'à l'année prochaine. Je lisais Frédéric Lordon sur Le Monde diplomatique qui justement disait au moins jusqu'au début de 2009, seulement pour le fait qu'il y a eu cette accumulation de titres structurés sur des subprimes, des hypothèques subprimes qui basées sur cette formule 2 plus 28, 2 ans de bas taux hypothécaire et 28 ans de taux hypothécaire normaux, donc impayables, nous porte à croire que techniquement cette crise va durer longtemps. De l'autre côté, justement, la question de la fragilité liée à la question de la médiatisation de la finance. Ça fait quelques années que je suis les travaux d'André Orléans, par exemple, qui est là. Et j'ai trouvé, je partage beaucoup cette analyse de la formation, comment est-ce qu'on peut dire, communicationnelle d'une convention autour de biens ou de assets, non, d'une fois à l'autre change selon des logiques qui sont des logiques qui ont leur rationalité justement dans leur dimension comment est-ce qu'on peut dire médiatisée, médiatique. Pour moi cette approche a été très importante parce que il me semble qu'il y a une forte symétrie, si vous voulez, ou analogie entre ce tournant linguistique de la finance et ce qui s'est passé à propos du post-fordisme. Pour moi, le post-fordisme, avec toutes les caractéristiques qui ont été décrites maintes fois, a au centre, en tout cas, dans ce renversement entre la demande et l'offre, la production et la consommation, le just-in-time, ça a une forte importance du point de vue de la centralité de la communication. La chaîne de montage fordienne est devenue une chaîne d'information, de flux d'information dans lequel la communication et l'agir communicationnel, c'était un peu ça que je voulais souligner dans le livre La place des chaussettes, joue un rôle fondamental. Donc, selon moi, il n'y a pas vraiment de contradiction. C'est ça la thèse que je soutiens depuis quelque temps. Entre financiarisation poussée et marchandisation. Il y a toute une tradition qui vient du siècle passé qui voit la finance comme une perversion, une déviation, un déplacement de ressources du productif à l'improductif. Non, ça, il y a pas seulement la tradition marxiste, mais il y a aussi tradition très noble, keynésienne, qui va dans ce sens. Eh bien, moi, là, j'ai quelques problèmes. Je ne pense pas qu'on puisse continuer à argumenter de cette façon. Premièrement, parce que je ne vois plus, j'ai de la peine à voir cette distinction, séparation entre une économie réelle et une économie financière. Donc, au point que l'économie financière